Le psalmiste dit dans une prière: rassasie-moi de ton amour au matin, que nous passions nos jours dans la fête et la joie. C'est une manière de redonner au titre l'amour passionné de Dieu pour les hommes une autre version. Chaque mot de cet extrait d'un psaume, rassasie-moi de ton amour au matin, peut devenir pour chacun de nous non plus une demande, mais une réalité. Et si nous sommes ici dans un lieu thérésien, où la pratique de l'oraison est, j'allais dire, quotidienne, et en même temps parce que nous sommes dans une assemblée de louanges, et que Dieu habite son peuple à travers ses louanges, il se pourrait bien, et je l'espère, et je vais demander cette grâce avec vous, qu'au terme de notre journée, nous puissions rendre grâce à Dieu et de lui dire: « Mais Seigneur, tu m'as vraiment rassasié de ton amour ce matin. » Comment cela s'est-il vu? Eh bien, nous avons donc, au terme de cette journée, nous pourrions dire que nous aurions expérimenté la joie et la fête. La joie, fruit du Saint-Esprit, vous le savez, particulièrement dans l'expérience de la louange. On pourrait parler de grâce sensible en termes plus thérésiens du côté de Saint Jean de la Croix pour signifier que chez l'homme, il ne faut pas diviser ce qui est de l'intelligence, de la volonté et de nos émotions. Et peut-être que le titre lui-même nous parle de tout cela, l'amour passionné. Alors c'est un terme qui est peut-être un peu audacieux, je reconnais, que les organisateurs ont choisi, sous un terme encore plus général, l'amour fou de Dieu. Et on sait qu'aujourd'hui, si l'on interroge un certain nombre de gens, la folie n'est pas quand même ce que nous chercherions, et la passion est quelquefois un peu soupçonnée d'être trop émotionnelle. Et pourtant, il nous faudrait essayer de comprendre pourquoi Dieu est si passionné de nous. Alors, c'est peut-être ce que je vais essayer ce matin avec vous, de comprendre qu'il n'y a pas d'opposition entre l'amour et la passion, bien que, en sciences humaines, nous pourrions nous arrêter sur la passion qui fait des ravages, vous le savez, et que l'amour n'est pas tout à fait la passion. En termes simples, nous dirions que la passion, c'est plutôt quelque chose qui est immédiat, une pulsion, une possession même, quelquefois, en nous, alors que l'amour est plus un sentiment, quelque chose qui est quand même plus profond, qui vient de notre désir profond d'être uni à quelqu'un. Alors Dieu serait-il à l'image de nous-mêmes? Est-ce un abus de langage que nous ferions en disant « Dieu est aussi passionné que nous serions passionnés, nous » Et encore, est-ce que Dieu serait autant amoureux de nous que nous serions de quelqu'un dont l'absence nous priverait d'une joie profonde? Alors vous voyez, beaucoup de questions quand même autour de ce titre qui peut nous déstabiliser dans un certain sens, mais aussi nous rassurer en disant que Dieu a un amour si débordant qu'il va venir habiter en nous et nous rassasier. Alors vous voyez bien la métaphore du rassasiement, cela touche la nourriture. C'est-à-dire, la nourriture, c'est la base essentielle de notre vie. Rassasie-nous, c'est-à-dire que vous avez ici une image qu'on pourrait presque dire maternelle, du rapport entre l'enfant et la mère. C'est-à-dire, comme si Dieu nous nourrissait, premièrement, de son amour, comme une mère nourrit son enfant au sein. Alors, vous comprenez bien que, quelque part, l'enfant qui est au sein de la mère, eh bien, ne sait pas trop ce qui se passe, mais il trouve certainement une paix profonde parce que la mère est donneuse non seulement de la nourriture en tant que substance matérielle dont l'enfant a besoin, mais vous savez que derrière ce que l'enfant reçoit, il y a une parole, il y a une attitude, il y a un regard. Et que la mère nourrit autant son enfant par son sein que par sa présence. Alors, est-ce qu'on peut dire que Dieu nourrit son peuple comme une mère allaite son enfant? Peut-être, dans une proximité très étroite. Et c'est tout le rapport de notre intimité avec Dieu. Alors, ce mot intimité, vous comprenez bien que ça peut aussi faire peur. Parce que lorsqu'on parle d'intimité, on parle de rencontre entre deux êtres humains qui n'est pas perceptible normalement par les autres. Cela reste de l'ordre du privé. Et lorsqu'il s'agit d'exposer notre vie privée aux autres, soit nous sommes sujets à la moquerie, soit nous sommes montrés un petit peu comme orgueilleux parce que nous nous mettons trop en avant. Alors, est-ce que Dieu se gênerait à se manifester devant nous par des signes particuliers? Eh bien, je crois que non. Et je vais même oser ce matin demander une confirmation à Dieu de l'enseignement que nous allons faire. Je vais demander la grâce d'un double parfum. Alors, vous voyez bien que je suis un peu thérésien sous ce côté-là. Je vais demander la grâce olfactive, c'est-à-dire la grâce sensible par le fait que nous puissions ressentir des parfums. Et je vais demander par l'intercession de Sainte Thérèse ce matin le double parfum de la rose et du lys. Alors, je vous dis ça pas par hasard. Il y a quelques jours, j'étais à Notre-Dame du Lot pour le rassemblement des bergers et noyaux des groupes de prière catholiques en France. Et il s'est trouvé que certains dans l'assemblée ont perçu ce double parfum de la rose et du lys. Alors, la rose, ça serait le symbole de l'amour, vous avez bien compris. Et le lys, ça serait le symbole de la chasteté. Et on pourrait définir en une seule phrase, quelle est la nature de l'amour de Dieu passionné pour nous? C'est un amour chaste. Comment Dieu peut-il nous donner son amour chaste tout en étant passionné de nous? Alors, la première distinction que vous ferez, bien sûr, c'est que nous sommes obligés d'avoir un contact tactile le plus souvent dans cet amour passionné, alors que Dieu est capable d'avoir un amour passionné pour nous sans passer par le tactile, c'est-à-dire sans l'union des corps. Et pourtant, Dieu aura choisi la meilleure façon de venir à nous par l'incarnation. Alors là, vous touchez la pointe même de cet amour passionné de Dieu. Dieu n'est pas un être en retrait. Il y a une théorie qui dit que Dieu, à la création, s'est retiré, le Tsitsun. Ce qui expliquait d'une certaine manière que devant le tragique de l'histoire, eh bien, Dieu n'était pas intervenu. On pense, entre autres, à l'Holocauste des camps nazis. On avait compris à ce moment-là que Dieu laissait l'homme responsable. Alors effectivement, nous pourrions parler de responsabilité, de morale. Mais ce Dieu n'est pas si extérieur à nous-mêmes, parce que depuis l'incarnation, il a lui-même mêlé sa vie et sa présence au monde, jusqu'à en pleurer. Vous le savez bien, nous fêtons aujourd'hui Marthe, ça veut dire quelque part l'évocation de Marie et de Lazare, et on sait que c'est à un moment crucial, juste avant sa passion, que Jésus a pleuré. Donc on pourrait dire que Dieu, dans sa présence, va jusqu'à l'émotion de pleurer devant la détresse humaine et de consoler ensuite par son amour à l'égard de celui qui peine. Alors ce Dieu, oui, paradoxalement, était capable d'exprimer un amour chaste à notre égard et à la fois un amour intime qui fait qu'au plus au-dedans de nous, nous pourrions percevoir une présence qui ravit notre cœur. Alors, le mot de ravissement est emprunté bien sûr au mystique, ce qui veut dire que le ravissement, c'est en termes plus généraux que l'on pourrait trouver dans les traditions mystiques, une extase. Alors, une extase, c'est par définition une sortie de soi. S'extasier, qui est un mot que nous employons souvent, devant, par exemple, une œuvre d'art. Je m'extasie devant la beauté de cette œuvre d'art. Et ce premier contact que j'ai avec cette œuvre d'art n'est pas tout le temps, vous voyez, explicité par des critères qui me viendraient immédiatement à l'esprit. Je peux avoir une formation, bien sûr, en histoire de l'art pour comprendre une œuvre et l'expliquer théoriquement. Mais un enfant qui viendrait devant une œuvre d'art est capable de dire, avant même de connaître toutes les théories que les hommes ont sur l'art, dire « c'est beau ». C'est beau et d'être ému. C'est dire qu'à ce moment-là, que même chez l'enfant, il y a une émotion devant la beauté qui se présente à lui. Alors, l'extase serait un petit peu du même type, c'est-à-dire une expérience que nous avons sans connaître tout de la théologie, mais de recevoir par ce qu'on appelle une illumination, une connaissance de Dieu qu'il nous donne lui-même. Une extase. Alors, peut-être que cet amour passionné de Dieu pourrait bien être, dans un premier temps, quelque chose de l'ordre de l'extase. Alors, pour ça, je vais quand même m'appuyer sur une encyclique de Benoît XVI, Deus Caritas Est, c'est-à-dire Dieu est amour ou Dieu est charité. Alors, je vais m'appuyer sur son écrit pour essayer d'expliquer comment nous-mêmes, nous pouvons arriver, donc là où je veux vous emmener, à être rassasiés de son amour, dès le matin, aujourd'hui, jusqu'à percevoir peut-être sensiblement l'odeur de la rose et du parfum, et peut-être se dire, effectivement, ce que nous avons entendu ce matin n'est pas simplement une théorie, mais c'est aussi une expérience. Donc, dans un deuxième temps, après mon enseignement, on verra un petit peu ce que le Seigneur veut nous donner, mais je vous proposerai peut-être de prendre un temps que le Saint-Esprit nous donnera de vivre pour expérimenter un peu ce que je vais essayer d'expliquer maintenant. Alors, Benoît XVI dit tout simplement au début qu'il y a probablement aussi des questions de langage. Notre langage, aujourd'hui, est un peu piégé, dirions-nous, parce que le mot aussi bien « amour » que « passion » peut revêtir beaucoup de choses. Si je dis « l'amour » peut, dans notre langage, être aussi bien l'amour de la patrie, l'amour de son travail, l'amour entre amis, l'amour entre parents et enfants, amour du prochain, voire amour de Dieu. Alors, ici se pose une question. Est-ce que le mot que nous utilisons veut dire la même chose dans toutes les citations que je viens de dire, ou bien ce n'est qu'un mot, un mot d'emprunt pour désigner différentes expériences? C'est vrai que si vous dites dans un langage un petit peu ordinaire, tiens, j'adore Dieu ou j'adore le chocolat, vous comprenez bien tout de suite qu'on ne veut pas parler de la même chose. Mais c'est un abus de langage que nous faisons en disant que lorsque j'aime le chocolat ou j'adore le chocolat, c'est parce que quelque part vous avez une expérience gustative qui vous satisfait. Alors on pourrait dire, est-ce qu'analogiquement nous aurions une expérience gustative de Dieu qui nous satisfait? Alors ici c'est encore une métaphore, vous avez bien compris. L'expérience gustative de Dieu, ça serait goûter, vous voyez, comme est bon le Seigneur. Donc on emploie bien sûr des mots que nous utilisons tous les jours pour essayer de dire quelque chose de la relation à Dieu. Donc goûter fait appel, vous voyez bien, à notre sensibilité, à un de nos sens, du goût, donc, de la délectation. Ah, je ne sais pas si vous avez fait cette expérience, mais la délectation, c'est quelque chose, bon, lorsque nous goûtons un plat, eh bien, qui ravit non seulement nos papilles, mais élargit aussi peut-être notre sourire, nous fait émerveiller avec des grands yeux et en même temps nous fait admirer celui qui a préparé quelque chose. Alors, vous voyez bien qu'on pourrait se dire, est-ce que Dieu, dans l'expérience de goûter sa présence, nous ferait délecter quelque chose de son amour, nous ouvrirait à une expérience de joie et en même temps nous donnerait la certitude qu'il est là, présent au fond de notre cœur, bien présent et jamais absent. Alors voyez, c'est par ces termes que nous essayons d'approcher la présence de Dieu en se disant, oui, nous empruntons des mots pour essayer de dire, comme dira la petite Thérèse, l'ineffable. Et paradoxalement, l'ineffable, c'est ce qui n'est pas explicable. Et pourtant, il nous faut mettre quelques mots pour arriver à dire que ce que nous disons n'est pas quand même de la folie, n'est pas quand même de la dérélection, de l'imaginaire, mais que c'est une réalité qui est difficilement nommable à certains moments, mais quand même qui amène l'homme à vivre quelque chose d'une présence à Dieu et on pourrait appeler déjà d'une transfiguration, car le propre même de celui qui est rassasié de l'amour de Dieu au matin, c'est qu'il est transfiguré dès le matin. Et cette transfiguration, vous avez bien compris, ce n'est pas à la mesure simplement de notre simple volonté, mais c'est une grâce de Dieu qui nous est donnée. Qui dit grâce, dit quelque chose du saisissement de Dieu à notre égard par sa propre bienveillance. Alors, nous pouvons demander cette grâce du ravissement, mais c'est lui qui nous la donnera. Alors, le terme passion, c'est pareil. Si je prends la passion du jeu, la passion pour le sport, la passion culturelle, la passion artistique, l'amour-passion, le crime passionnel même. Pareil, ce même mot que nous utilisons, veut-il dire la même chose dans toutes les circonstances ? Ou est-il un mot que nous empruntons pour nommer des différences entre le crime passionnel et bien sûr la passion musicale telle que nous l'avons entendue hier à travers Claude ? Il y a quand même une grande différence, vous avez bien compris. L'un porte atteinte à la vie de quelqu'un, l'autre, j'allais dire, permet dans l'amour de Dieu à travers l'expression artistique d'être aussi une extase. C'est-à-dire, on voit bien lorsque Claude joue du violon, non seulement lui-même est déjà hors de lui-même, si je peux plus dire, il est dans une extase, et il nous emmène lui-même, nous, dans une extase, c'est-à-dire dans une expérience qui nous fait sortir de nous-mêmes pour peut-être s'arrêter sur la présence de Dieu, alors que la plupart du temps, nous avons l'impression qu'il nous fuit, que nous ne le saisissons pas, que nous n'arrivons pas à nous arrêter sur lui, mais que par la note de musique, ou les notes de musique, l'harmonie nous met dans un état intérieur où là, les mots ne suffisent plus pour dire ce qui se passe. Au point que peut-être les larmes viennent, le saisissement de la compréhension de l'amour de Dieu vient en nous et nous transporte, dirions-nous. Donc voilà, même la passion artistique a quelque chose à voir avec la passion amoureuse de Dieu pour nous. Alors, l'amour passionné, je vais en donner une définition selon Benoît XVI, dans son encyclique. Il dit « À l'amour entre homme et femme, qui ne naît pas de la pensée ou de la volonté, mais qui, pour ainsi dire, s'impose à l'être humain, la Grèce antique avait donné le nom d'Eros. » Voilà. Alors, je vais emprunter donc un terme philosophique que Benoît XVI évoque dans son encyclique et il en donne une définition. L'Eros, donc, ne serait pas ce que la pensée ou la volonté produit, mais quelque chose qui s'impose à l'être humain. Alors, quelque chose qui s'impose à vous, ce n'est pas quelque chose que vous avez choisi originellement. Ce n'est pas ce que vous avez produit intellectuellement. C'est quelque chose qui advient en vous sans que vous sachiez ni à quel moment ça se manifeste, ni comment il se manifeste. Il s'impose à vous. Alors, quelque chose qui s'impose à nous, voyez, c'est quelque chose qui vient à nous, qui vient de nous aussi, mais nous ne savons pas tout le temps maîtriser la manifestation. Donc, l'éros ou l'amour au sens grec serait quelque chose à la fois perceptible en nous, mais que nous ne réussissons pas tout le temps à maîtriser. Alors, nous allons un petit peu essayer de développer dans, bien sûr, la Bible, essayer de voir si cet éros, c'est-à-dire un mouvement sorti du plus profond de notre être, que nous ne saisissons pas tout le temps, que nous ne contrôlons pas toujours, mais qui serait de l'ordre de l'amour. Alors, quand on regarde dans la Bible, dans l'Ancien Testament, le mot « eros » n'est utilisé que deux fois. Ça veut dire que déjà, la Bible perçoit une différence entre ce que le monde grec a essayé d'expliquer à travers l'eros. Alors, vous voyez bien que ce mot a donné plus tard, mais qui n'est pas quand même l'exactitude de ce mot. Eros, érotique, vous voyez, un amour sensible, un amour très émotionnel. Mais à l'origine, même le mot eros a une connotation religieuse. C'est un mot qui est plus proche de ce que j'ai expliqué tout à l'heure du mot extase. Car il y avait dans les religions païennes une forme d'extase où il s'agissait d'entrer, alors nous dirions avec nos mots un petit peu modernes, dans une expérience mystique où la raison n'est pas première, mais où l'émotion guide la relation à la transcendance. Donc, la question de la religion à travers l'amour n'est pas étranger complètement à ce monde grec, mais il nous faudra essayer de dire dans le langage biblique si l'amour dont nous parlons de Dieu pour nous dans la révélation est exactement ou pas ce que le monde païen a expérimenté dans la religion païenne. Alors, si la Bible n'utilise que très peu ces mots, c'est que probablement la révélation de l'amour de Dieu dans la Bible n'est pas exactement la même perception de l'amour que dans le monde grec. Alors, on va donc utiliser un autre mot. On traduira donc en grec par agapé. Alors, je vais tout de suite donner une petite distinction pour que vous compreniez la différence. On expliquera que par le mot eros, c'est plus un amour possessif. C'est-à-dire comme si le monde divin cherchait à attirer à lui ce monde terrestre pour un hommage qu'il se rend. Alors vous me direz, c'est quand même un petit peu possessif que de dire que le divin ou Dieu aurait pour intention simplement de nous attirer à lui pour son propre honneur. Ce qui n'est pas totalement étranger à la connotation que nous donnons, par exemple, dans les psaumes, où on a bien l'impression que Dieu cherche à nous séduire. Et même certains prophètes le diront, « Tu m'as séduit et je me suis laissé séduire. » Donc, quelque part, nous acceptons que Dieu nous fasse du charme. C'est-à-dire qu'il sache par la manière qu'il possède nous attirer à lui pour lui-même. Donc Dieu aurait aussi, dans la tradition chrétienne, la tradition biblique, une capacité à nous attirer à lui pour sa propre gloire. Là, nous serions vraiment sur le côté de l'éros. Donc ce qui veut dire que quelque part, dans le langage biblique, nous ne sommes pas complètement extérieurs à cet amour de séduction, dirions-nous. Cet amour qui recherche un peu à nous attirer vers soi, pour soi-même. Mais le mot agapé, que va-t-il donner de plus? Le mot agapé va être utilisé plus largement dans la Bible, dans l'Ancien Testament, alors soit en grec, soit en hébreu. En hébreu, on utilisera donc pour le mot eros dodim et abaa pour le mot agapé. Mais cet agapé va être signifié par un amour non pas possessif, donc retenez bien le mot, c'est le mot essentiel, s'il faut retenir une chose, c'est celui-là, c'est un amour oblatif. Donc oblatif, c'est la notion de donation. Je me donne à l'autre. Je fais tout pour que l'autre soit heureux, qu'il trouve sa plénitude. Donc, du côté de Dieu, il y aurait une double faculté. Une faculté à la fois de nous attirer à lui, plus du côté de la passion et un côté beaucoup plus généreux, donateur, gratuit, qui est de nous faire du bien pour nous-mêmes. Donc de se livrer à nous jusqu'au moment où il nous permettra d'être complètement libre, de le louer, de lui rendre grâce, de l'adorer. Alors, vous voyez, double mouvement qu'il va falloir saisir dans cet amour-passion. Tantôt dans votre expérience, vous allez être saisi par son amour, vous allez être attiré, émerveillé, vous allez en pleurer, vous allez ressentir même un sentiment pour lui. Et dans un deuxième temps, vous avez l'impression que cet amour vous donne un espace de liberté, un espace tel que vous percevez que cet amour n'est jamais emprisonnant, qu'il est libérant, qu'il vous libère non seulement d'un Dieu qui chercherait à vous maîtriser, et en plus il vous libère de tous les amours humains qui risqueraient peut-être d'être des dépendances, de ces amours qui sont, du fait que nous sommes dans une expérience temporelle, passagers, qui est un amour imparfait. Cet amour parfait de Dieu, alors nous allons lui donner un nom dans l'histoire spirituelle, en particulier au XVIIe siècle, qu'on appelle le pur amour. Alors c'est Madame Guyon qui a donné cette terminologie un peu. Ce pur amour est en fin de compte à la fois un saisissement de Dieu dans votre âme et à la fois une libération de tout l'amour que vous avez dans le cœur. Saisissement de Dieu qui vous saisit, qui vous attire à lui, et une capacité de redonner cet amour en plénitude à ceux que vous allez rencontrer. Donc vous voyez bien ce mouvement, Dieu vient à moi, me saisit, m'embrasse, m'étreint, et à la fois il me libère intérieurement pour que toutes mes blessures et mon péché ne m'empêchent pas d'aimer avec le cœur de Dieu, c'est-à-dire avec la plus grande gratuité. Ça, c'est l'école des mystiques, derrière. Donc, ici, avec Benoît XVI, on avance progressivement dans cette explication d'une reconnaissance de l'intuition humaine qu'il y a du côté du monde divin, un être qui nous attire, mais que les religions païennes ou la philosophie païenne est encore limitée car elle ne comprend que ce simple mouvement totalement légitime qui est un mouvement de l'homme vers Dieu. Dieu m'attire à lui. C'est le mouvement qu'on dirait de l'âme religieuse qui existe chez tout être humain. Lorsqu'il se sent attiré dans une religion, bon, l'âme est religieuse par définition, elle sait qu'elle n'est pas son origine et elle cherche, j'allais dire, dans les différentes sagesses, là où son âme pourra aller vers le transcendant, vers Dieu, l'ineffable, l'invisible. Et la révélation, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vous saisit non seulement parce que Dieu vous attire à lui, mais en même temps, il vous rend toute votre liberté pour essayer à votre tour de manifester cet amour de Dieu qui n'est pas simplement possessif, mais qui est oblatif, qui est dans la générosité la plus totale. Alors on va se dire, oui, bon, c'est bien beau tout ça, mais donnez-nous quand même des références là, bibliques, pour essayer un petit peu d'avancer et nous dire, mais dans quelle page de l'Écriture vous pourriez nous permettre de passer de cet amour possessif à cet amour oblatif ? Qui fait que l'amour-passion est à la fois effectivement une passion, mais un amour qui est suffisamment fort et profond pour que nous puissions employer le mot charité, puisque c'est l'enseignement de l'Église, depuis le début du christianisme, de nous dire l'amour chrétien a quelque chose qui n'est pas l'égal de l'amour humain totalement, ou l'amour découvert dans les religions. Alors, prenez le Cantique des Cantiques. Eh bien, dans le Cantique des Cantiques, vous allez avoir une progression de cet amour. Ce double mouvement que je vous ai expliqué existe dans le Cantique des Cantiques. Alors, non seulement à travers le vocabulaire, puisqu'on va employer cet amour-passion d'Odime, et nous allons employer cet amour oblatif, le don de soi, rien que pour l'autre, dans le mot abara, donc en gros Eros Agapé, bien avant que nous utilisions le terme dans le Nouveau Testament. Alors, vous allez me dire qu'il y a probablement dans notre âme, puisqu'il s'agit de lire aussi le Cantique des Cantiques, comme une histoire d'amour, non seulement entre Dieu et Israël, Dieu et l'Église, mais Dieu et mon âme. Donc vous avez trois dimensions pour lire ce Cantique des Cantiques selon la tradition chrétienne. D'abord, au sens d'Israël, c'est-à-dire que l'alliance qui existe entre Dieu et Israël a eu des moments difficiles. Dieu a voulu reconquérir son peuple en l'emmenant au désert. Et Osée est probablement celui qui a perçu cet amour passionné pour son peuple à la manière d'un homme qui essaye de reconquérir sa femme qui est partie avec un autre. Alors imaginez un instant si cela nous arrive dans nos couples lorsque soit le mari, soit la femme s'en va, la partie qui reste seule est dans une détresse car la partie qu'elle aime est partie. N'est plus là. Et on peut dire analogiquement, Dieu a cette souffrance dans l'Ancien Testament comme un homme a une souffrance lorsque sa femme part avec un autre. Eh bien, qu'est-ce que fait l'homme ou Dieu ? Il essaye, par toute sa volonté, sa tendresse, son cœur, non seulement d'aller chercher celle qu'il aime, mais pour arriver à ramener celle qu'il aime, qu'est-ce qu'il va faire? Il va lui pardonner. Il va lui faire miséricorde. Et Osée nous dit, eh bien, cette figure d'Israël, c'est comme une femme qui est tombée dans l'adultère, voire dans la prostitution. Ce sont les deux mots que Dieu utilise pour nous dire lorsque l'homme, l'homme en général, qu'il soit féminin ou masculin, lorsqu'il s'écarte de Dieu, lorsqu'il n'est plus sous son regard, c'est comme le peuple d'Israël qui a quitté son Dieu pour d'autres divinités et est devenu d'une certaine manière dans l'idolâtrie comme un adultère ou une prostitution. Et Dieu va dire à Osée, eh bien tu vas aller chercher une femme qui se prostitue pour l'épouser et faire que quelque part elle retrouve sa dignité de femme en devenant une femme fidèle et non pas une femme volage qui va d'homme en homme. Eh bien, dans l'expérience d'Israël, il y a successivement ces infidélités qui fait que Dieu ne peut pas supporter que ce qu'il a choisi soit loin de lui, soit dans les mains livrées à d'autres religions, dirions-nous. Donc, qu'est-ce que fait Dieu ? Lorsqu'il a délibérément choisi quelqu'un, depuis le jour où il a été baptisé, on va le dire, dans notre démarche chrétienne, eh bien, Dieu, par amour, je vous le dis, ne va jamais vous laisser tranquille. Si vous êtes baptisé, alors plus encore, si vous êtes baptisé dans le Saint-Esprit, Dieu ne va pas vous laisser tranquille. Il va vous poursuivre de son amour et va tout faire pour vous ramener à lui. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? On l'a bien vu dans l'histoire de Claude hier. Eh bien, il va aller vous chercher dans les plus grandes détresses que vous vivez. Pour lui, il ne peut pas laisser une âme errer dans les profondeurs du péché, voire dans les méandres des blessures de la vie. Il va donc sans arrêt vous poursuivre de son amour et vous tirer comme quelqu'un vient vous tirer du gouffre dans lequel vous êtes. Il va aller vous chercher. Jusqu'à où ? Eh bien, jusqu'à vous dire que son amour est aussi grand que l'homme qui est capable de pardonner à son épouse infidèle. Ou bien encore d'un Dieu qui envoie un homme aller épouser une prostituée. C'est dire que Dieu est capable d'aller choisir une âme qui a fait toutes les expériences, j'allais dire, inconcevables, de se livrer à tort et à travers, corps et âme, au premier venu, en faisant toutes les expériences, j'allais dire, destructrices quelque part. Alors Dieu est capable d'aller vous chercher jusque-là, parce que son amour est tel qu'il ne supporte pas que sa préférée aille se livrer à des pratiques qui ne sont pas dignes de ce que lui a voulu à l'origine. Alors, il est capable, selon ce que dit certains spirituels, un carme en particulier, qui a écrit un petit livre qui s'appelle « L'âme virginisée ». L'âme virginisée. Vous vous rendez bien compte, il y a quelque chose ici d'un défi, c'est-à-dire que Dieu est capable, quelles que soient les expériences que vous avez faites en amour, de virginiser votre âme. C'est impossible à l'homme. C'est-à-dire de vous donner la pureté de l'âme telle que Dieu l'a voulu à l'origine, avant le péché originel. C'est de cet ordre-là. Dieu est capable d'aller vous chercher dans son amour tel qu'il est capable de vous rendre l'âme pure aussi, pure qu'à l'origine de son dessein divin. Quelque part, on n'est pas loin de la petite Thérèse, vous avez bien compris. C'est que la petite Thérèse, quelque part, elle nous emmène sur le chemin du pur amour pour quelque part nous virginiser. Oui, il faut que je parle comme au micro. Il faut toujours que je me rappelle que j'ai mangé des glaces quand j'étais jeune et que la glace était non pas à 15 cm, mais toujours près des lèvres. Voilà. Ce qui montre que j'aime la glace, vous pensez, bien sûr. Alors, quelque part, Dieu va s'arranger pour nous permettre de revenir à lui comme un homme va chercher sa femme adultère, prostituée dans le cas d'Osée. Donc il va nous séduire, il va parler à notre cœur. Où ça ? Dans le désert. Donc lorsque Dieu se déclare dans cet amour passionné pour vous, qui est déjà donc lui qui ne supporte pas que vous soyez loin de son cœur, il va aller vous chercher dans des lieux où vous avez l'impression que vous êtes loin de tout. C'est-à-dire où vous ne percevez plus la présence de Dieu, où tout vous paraît sec, rude, où vous n'avez pas la présence sensible de Dieu, où vous avez l'impression que vous êtes le plus grand pécheur, où vous avez l'impression que tout ce que vous faisiez avant ne vous permet plus d'être en proximité avec Dieu. Donc vous allez être dans le désert. Donc le propre du désert, c'est quelque part où vos repères habituels ne fonctionnent plus. Tout ce que vous faisiez avant n'a plus l'air de vous permettre d'aller à Dieu ou d'être en communion avec Dieu. Donc c'est cette expérience du désert, que vous en soyez responsable ou pas. Donc Dieu vient vous chercher. Et qu'est-ce qu'il fait ? Selon Osée, il réussit à nouveau à vous attirer à lui comme dans des nouvelles fiançailles. Et Osée dira, je me fiancerai à toi dans la tendresse, l'amour, la justice et le droit. La tendresse, c'est quoi ? La tendresse, c'est deux images. Celle d'abord de la mère avec son enfant qui donne à cet enfant la nourriture, lui apprend à marcher, lui apprend à découvrir le monde qui est autour de lui, alors qu'il est incapable de mener sa vie de façon autonome. Donc Dieu, quelque part, va aller vous chercher dans cet amour-passion à un moment où vous ne pouvez plus guider votre vie. Vous êtes trop dépendant de lui, de son action, comme l'enfant est dépendant, le nouveau-né est dépendant exclusivement de la mère au départ. Donc Dieu est paradoxalement un père au cœur de mère. qui vient vous chercher dans sa tendresse et vous prodigue tout l'amour tendre qu'il a dans des gestes, dans une présence, dans quelque chose qui vous donne une forme de sécurité, un apaisement en sa présence. C'est ça la tendresse. La tendresse, c'est aussi lorsque vous êtes vieux et que quelqu'un prend soin de vous, en particulier dans les soins. Lorsque votre corps ne peut plus être mobile, lorsque votre corps ne peut plus faire les actes que vous faisiez tout seul de façon autonome. Vous descendez quelquefois dans une humilité nécessaire pour que quelqu'un vous lave, vous soigne, vous fasse manger. Vous retournez quelque part à l'état de l'enfant nouveau-né parce que vous êtes totalement dépendant. Eh bien, Dieu vient vous chercher aussi dans cet amour-patience quand, dans sa tendresse, vous ne pouvez plus rien par vous-même. Vous êtes dans un état tel que vous ne savez plus comment mener votre vie. Et c'est à ce moment-là que Dieu vient vous chercher dans sa tendresse. Alors ensuite, on pourrait continuer dans le droit et la justice. C'est-à-dire que Dieu est capable de vous redonner la dignité que vous avez peut-être perdue. Cette femme prostituée du livre d'Osée a aux yeux des hommes aucune dignité. Mais Dieu va redonner, à travers cette métaphore, à Israël, sa dignité, même s'il a été infidèle dans son amour pour Dieu. La justice, c'est reconnaître que, quelque part, Dieu ne peut pas laisser des hommes affamés, démunis, dans la condition d'une déchéance. C'est-à-dire que Dieu est capable de rétablir ce que les hommes ne peuvent pas, quelque part, rétablir. La veuve, l'orphelin, l'étranger, on le voit dans la Bible, sont trois catégories sociales dont Dieu a pertinemment décidé de prendre soin, quelle que soit leur vertu ou leur péché. L'étranger n'est pas plus vertueux que celui qui est, originaire de tel ou tel pays. Il n'est ni plus vertueux, ni plus pécheur, peut-être. La veuve, elle n'est pas plus vertueuse non plus que peut-être une personne mariée ou qui vit en couple. L'enfant, on le sait, l'enfant, même orphelin, n'est pas plus vertueux qu'un autre. Et donc Dieu ne rétribue pas, selon nos vertus, ce que nous pourrions mériter. Dieu, par amour délibéré, va aller chercher l'âme qu'il a créée à son image et à sa ressemblance. Il ne s'agit plus ici de dire l'un mériterait quelque chose ou l'autre ne mériterait pas selon sa conduite. L'amour miséricordieux de Dieu vient au-devant et va chercher ce qui est le plus misérable. Et il n'y a que Dieu qui a pour capacité d'aller chercher l'homme le plus misérable que nous sommes, nous, ou peut-être que nos voisins, sans connaître son histoire, est. Alors, voilà, Dieu, dans sa pratique de l'amour miséricordieux, va se manifester. Alors, dans le Cantique des Cantiques, après le livre d'Osée, après avoir considéré que l'âme est un peu errante, et Israël est errante, l'Église a quelquefois peut-être eu ses limites, car l'Église est à la fois sainte et pécheresse, pas besoin de vous faire de dessin, eh bien Dieu va s'immiscer dans une vie et faire que Dieu d'abord va nous attirer à lui. Le verset 1 du Cantique des Cantiques, c'est, alors selon les traductions, qu'il me baise d'un baiser de sa bouche ou qu'il m'embrasse d'un baiser de sa bouche, c'est la métaphore que saint Bernard utilisera pour parler de la Trinité. La Trinité est capable de nous attirer à elle comme, celui qui nous aime nous attire par ses bras, par sa présence. Donc Dieu a une capacité de nous attirer d'abord à lui. Sans le connaître, nous pouvons être attirés par Dieu sans le connaître. C'est l'étape des conversions, vous avez bien compris, de ceux qui, cherchant Dieu, à un moment sont saisis par Dieu, mais ne le connaissent pas vraiment. Ils en ont l'intuition qu'il existe, qu'il a pour eux quelque chose à leur dire, à leur manifester. Ils commencent à ressentir quelque chose, mais ils n'arrivent pas à le nommer. Ils en ont simplement un attrait, une reconnaissance d'une réalité, mais ils cherchent. Donc ça, c'est le moment de la conversion. Donc Dieu va nous attirer à lui, comme le bien-aimé attire sa bien-aimée. Alors, on l'a dit tout à l'heure, par une forme de séduction, par une forme d'attraction, peut-être aussi par une forme de vouloir cet amour pour lui-même. Donc ça veut dire que Dieu a une capacité, aussi comme le bien-aimé, de faire un petit peu ce qu'on appellerait aussi des pas de danse, des pas qui fait que lui seul est capable de saisir notre âme, de l'attirer à lui, pour faire que, un moment, nous soyons comme un petit peu omnibulés par lui, c'est-à-dire fixés par lui, sans que le monde ait une grande influence, ou sans que le monde soit pour nous forcément ce dont nous allons nous occuper. Mais il y a une sortie de soi, l'extase, vous avez bien compris, de la bien-aimée qui commence à tout miser sur l'amour du bien-aimé, parce qu'elle l'a entrevu. Alors, on sait que dans le début du Cantique des Cantiques, elle dit, elle rêve de passer une nuit dans la chambre du roi. De passer une nuit dans la chambre du roi. Comme si, quelque part, devenir la maîtresse du roi, dirions-nous, au temps de David et de Salomon, c'était ce qu'il y avait de plus espéré ou plus imaginé chez les jeunes adolescentes, nous dit le Cantique des Cantiques. Alors ici, c'est une métaphore qu'il faut nous lire derrière, c'est-à-dire que Dieu, pour l'âme qui commence à être attirée par Dieu, n'a qu'une envie, d'être en permanence dans son intimité. C'est-à-dire de goûter ce que Dieu a donné à un moment donné, on traduirait dans notre langage plus moderne, d'être amoureux de Dieu. De sentir que notre âme n'a qu'une envie, c'est d'être bien avec Dieu, d'être en sa présence, de tout miser sur lui, de percevoir que sans lui, nous ne pouvons pas vivre. C'est ça le propre de l'amour, c'est qu'à un moment nous disons, sans lui ou sans elle, je ne peux pas vivre. Il est une partie de moi-même. Il est ce qui me donne du sens à la vie. C'est ce qui me permet d'être dans la joie, de ravir mon cœur, de trouver que la vie a de la saveur. Eh bien, métaphoriquement, on pourra dire que l'âme qui est saisie par Dieu trouve que la vie, en la présence de Dieu, a quelque chose de la saveur, a quelque chose de la jubilation, a quelque chose du ravissement, d'un sentiment amoureux qui dure de façon un peu permanente. Donc une sortie de soi, parce que Dieu nous attire à lui. Mais en même temps, on pourrait dire que cet amour est un peu égoïste, parce que lorsqu'on est un peu amoureux même de quelqu'un, on a l'impression que le monde autour de soi est très relativisé. Bon, les événements continuent, mais les événements autour de soi ont moins d'impact sur nous. Ou bien, nos responsabilités que nous avons l'impression peut-être que nous les laisserions un petit peu de côté pour s'occuper plutôt de celui qui nous aime, comme si nous avions besoin qu'il s'occupe de nous. Et oui, c'est le propre de l'amour, vous avez bien compris, quelque part. Lorsqu'on est amoureux, c'est que nous aimerions passer plus de temps avec l'être aimé, nous voudrions être plus dans sa présence, et que les choses que nous faisons habituellement deviennent un peu secondaires. Que nous ayons un beau métier, c'est bien, mais être aimé par quelqu'un, c'est mieux. que nous ayons tous les diplômes, c'est bien, mais que nous soyons aimés par quelqu'un, c'est mieux. Que nous ayons toutes les fortunes du monde, c'est bien, mais l'amour, c'est mieux. C'est-à-dire que la bien-aimée nous dit, tout ce que le monde nous donne et qui ne fera que passer, eh bien, n'est rien à côté d'un instant de l'amour avec Dieu. Et donc, qu'est-ce que nous recherchons ? Nous recherchons les moments qui nous sembleraient devenir éternels. Donc, qu'est-ce que nous dit Thérèse ? Dans le cœur de l'Église, je serai l'amour. C'est-à-dire que là, elle nous dit, ben, c'est l'essentiel. Ce qui est à côté n'est que, alors, pas secondaire, n'est que second. C'est-à-dire ce qui est second vient se greffer ce qui est sur la chose principale. Donc l'ensemble de mes activités vont devenir comme alimentées, éclairées, soutenues par l'amour que je reçois de Dieu. Et l'ensemble de mes activités vont à ce moment-là être un peu transfigurées. Je ne ferai pas le travail que je fais pour l'argent, je ne ferai pas mes études uniquement pour avoir des considérations, je ne chercherai pas à garder mes biens uniquement pour paraître, mais l'ensemble de ce que j'ai, de ce que je fais ou de ce que je suis ne sera que simplement pour servir Dieu. Servir Dieu, c'est-à-dire être près de lui selon ce qu'il veut de moi. Donc ce qu'il veut de moi, il va falloir que je le découvre. Alors, c'est en fréquentant l'amour passionné de Dieu, donc cet amour qui semble un petit peu plus attractif, Dieu m'attire à lui, me fait sortir de moi-même, dans une démarche où je ne sais pas tout le temps là où il veut en venir, où ma volonté et ma raison ne sait pas bien ce qui se passe dans cette expérience un peu mystique, d'extase. Mais au fur et à mesure, il va y avoir une purification de l'amour dans le Cantique des Cantiques. Alors ça commence comment ? Ben, vous savez, dans le Cantique des Cantiques, il y a des saisons. Comme on parle des saisons de l'amour, vous avez bien compris. Et paradoxalement, cela commence d'abord par l'hiver. Comme si l'hiver était un amour un peu froid, si je peux dire, un amour où tout n'est pas encore dans l'éclosion. Donc c'est moi qui recherche probablement un peu de sécurité du côté de Dieu. Donc j'ai besoin que Dieu vienne à moi, j'ai besoin qu'il me réchauffe en hiver, j'ai besoin qu'il me donne des signes tangibles de son amour, car la rudesse de la vie fait que je ne peux pas vivre si Dieu ne manifeste pas quelques grâces sensibles. C'est pour ça que j'ai demandé pour vous la grâce déjà de la rose et du lys. Comme si j'avais besoin à un certain moment que Dieu me manifeste cet amour sensiblement. Et puis il y a le printemps. Alors le printemps va se manifester par le fait que le bien-aimé va me demander quelque chose. En particulier, il demande à la bien-aimée en lui disant dans un poème que son visage et sa voix plaît au bien-aimé. Donc la deuxième chose dans lequel Dieu veut nous introduire après nous avoir attirés à lui, peut-être plus dans un cœur à cœur, dans un silence, dans une grâce sensible, c'est qu'il veut voir notre visage et entendre notre voix. Ton visage est agréable et ta voix est douce. Ma colombe, en plus. Donc là, c'est une métaphore de la tendresse de Dieu qui voit notre âme ou l'Église comme une colombe. Ça parle déjà un peu du Saint-Esprit qui est en nous. Alors, notre voix et notre visage est agréable à Dieu. Lorsque nous sommes saisis par Dieu, lorsqu'il nous a attirés vers lui, sur son cœur, il y a quelque part, il y a déjà une première transfiguration de notre voix et de notre visage. Son amour nous attire tellement à lui que nous ne nous regardons plus et nous ne regardons plus notre voisin. Nous ne sommes plus dans la comparaison et nous ne sommes plus dans le sentiment, on va dire, d'infériorité. Vous savez, qui est un sentiment qui est pratiquement une des conséquences du péché originel, c'est-à-dire que nous nous faisons simplement des comparaisons sans arrêt en disant « j'ai l'impression d'être mieux que lui » ou « j'ai l'impression d'être moins bien que lui ». Dans le saisissement de notre cœur par Dieu, ce sentiment d'infériorité ou de supériorité disparaît. Et c'est Dieu qui nous dit, je veux simplement entendre ta voix, je veux voir ton visage. Et c'est pratiquement la louange qui nous permet d'être dans cette expérience que Dieu se satisfait d'une transformation de notre voix et de notre visage. Nous n'avons pas la même voix quand nous sommes dans la louange que quand nous sommes dans la discussion entre nous. Dieu sait travailler le timbre de notre voix pour que ce soit agréable à son cœur et en même temps que l'Église entende cette voix qui porte celle-ci vers Dieu. Et notre visage n'est plus le même aussi. Donc ça, c'est le printemps de Dieu en nous dans la louange. Et puis au fur et à mesure, nous allons arriver à l'été. Et l'été, ben, c'est quoi? L'été, c'est les fruits, c'est les senteurs. C'est le fait que quelque chose de la lumière de Dieu, commence à nous habiter. Alors là, vous allez porter des fruits du Saint-Esprit, mais aussi c'est tous les charismes que vous avez et que Dieu va déployer en vous. Voilà. Cet amour de Dieu va déployer des charismes. Et puis, il y a l'expérience de l'orage l'été. C'est-à-dire que vous avez des étés aussi où vous avez des... quelque part, quelque chose qui vous... ben, qui vous déstabilise. On le sait que l'été, eh ben, les orages vont, avec des grêles par exemple, saccager les vignes et faire que le vigneron va être déçu de tout le temps qu'il a passé à soigner sa vigne pour avoir les meilleurs fruits. Et il voit le fruit de sa vigne en un instant saccagé. Alors là, c'est aussi une purification qu'on trouve chez les mystiques, c'est-à-dire c'est le passage de la croix. Et la croix, c'est quoi? Ben, c'est aussi dans l'expérience amoureuse de Dieu, c'est que Dieu vous dépouille. Les grâces sensibles que vous aviez avant, peut-être la jubilation que vous aviez avant, n'est plus comme avant. Dieu veut encore vous purifier dans votre amour avec lui. Il va enlever peut-être les ressentis que vous aviez, les émotions que vous aviez avec lui. Il va vous tailler, si on prend l'image de la vigne, comme le vigneron taille la vigne, il va vous tailler pour de nouveaux fruits ensuite, qui viendront plus tard. Et puis, vous avez les couleurs de l'automne. Eh bien, les couleurs de l'automne, ce sont des couleurs uniques. C'est-à-dire que Dieu va vous donner quelque chose de nouveau que lui seul peut vous donner après les orages de l'été, après les fruits de l'été, après le printemps et après l'hiver, qui n'est pas l'hiver. L'automne n'est pas l'hiver. C'est une douceur que Dieu vous donne, un apaisement en vous qui fait que vous êtes très proche, pratiquement, de faire ce passage de la mort à la résurrection. La croix qui est plutôt l'orage des étés et la résurrection qui, paradoxalement, n'est pas au printemps ici. Ce sont les pluies d'automne. Si on était en Israël, nous serions très étonnés que les pluies d'automne sont très importantes. Parce que les pluies d'automne vont repréparer ensuite l'arrivée des pluies de printemps. Il nous faut les pluies d'automne et les pluies de printemps. Dans le renouveau, ils ont eu, il n'y a pas très longtemps, une démarche à Bethléem, et ils ont eu dans cette métaphore qu'après les pluies d'automne, il fallait arriver aux pluies de printemps, c'est-à-dire nous devions repartir dans un nouveau cycle concernant le renouveau charismatique. C'est-à-dire que nous avions probablement fait un cycle des pluies de printemps il y a peut-être dans les années 70, que nous arrivions aux pluies d'automne et que probablement nous sommes dans des temps prophétiques, probablement à cause de la visite du pape François à Jérusalem, hein, ou avec le Athénagoras, il a bien signifié que nous étions à nouveau dans des pluies nouvelles que nous allions vivre, des pluies de printemps, parce que l'Église, dans toutes ses confessions, a besoin d'un renouveau spirituel, un renouveau où le corps de l'Église ne sera que un, habité par l'amour. Alors je termine l'astuce en me disant, mais Seigneur, voilà, j'ai demandé au début de cette intervention que nous puissions vivre l'expérience intérieurement de cet amour passionné de Dieu. Je l'ai présenté à la fois... bon, dans son origine un petit peu plus philosophique, l'éros, en disant que c'était une expérience humaine que nous puissions, que nous pouvons faire dans différentes religions, que l'homme se sent attiré par Dieu, qu'il est capable d'avoir des expériences un peu mystiques, effectivement, qui le fait sortir de soi, qui sollicite en lui quelque chose qui n'est pas uniquement de l'ordre de la volonté et de la raison, qui est comme quelque chose qui s'impose à lui. C'est l'expression que Benoît XVI prend, donc quelque chose qui s'impose à moi, qui viendrait me saisir, mais je ne sais pas d'où vraiment. Et dans la tradition chrétienne, nous avons essayé d'expliquer que c'était la révélation de l'amour trinitaire qui était en fin de compte l'expérience où Dieu vient à la fois nous saisir, comme la bien-aimée est saisie par le bien-aimé, mais lorsque nous sommes saisis par Dieu, nous allons progressivement passer par des étapes de purification. Alors, dans la tradition mystique, l'illumination précède la purification. L'illumination, c'est quand vous avez une forte conversion, que vous avez rencontré Jésus. Puis Dieu s'arrange pour vous purifier de votre péché, de vos blessures, jusqu'au moment où, vous faisant passer par la croix, il va arriver à vous faire découvrir une union avec lui qui est comparable chez les mystiques à l'union nuptiale. Alors, paradoxalement, une union nuptiale avec lui, alors qui ne passe pas entièrement par le corps comme pour l'homme et la femme dans le mariage, mais là qui va passer par une expérience intérieure qui vous saisit telle que vous avez l'impression que Dieu et vous, vous êtes unis à la manière dont Saint Jean de la Croix parlera dans un poème, du feu et de la bûche. Je terminerai là-dessus, ce qui veut dire que je vais demander progressivement à la louange de se remettre en place, car je voudrais qu'on expérimente dans ce thème de l'amour passionné pour Dieu l'image du feu prenant progressivement possession de la bûche. Donc dans la nuit obscure, Saint Jean de la Croix nous décrit un poème pour nous expliquer le rôle de l'Esprit Saint, c'est-à-dire la vive flamme. Le rôle de l'Esprit Saint, c'est comme le feu qui progressivement va prendre possession de votre âme. Il va passer par différentes étapes. Il va d'abord enlever toute l'humidité du bois, comme Dieu nous fait pleurer. Dieu nous fait pleurer à cause de notre péché et à cause de nos blessures. Et en même temps, il nous fait pleurer parce que nous percevons que son amour est plus grand que tous les torts que nous aurions. Son amour est infiniment plus grand. Comme Sylvie Buisset chantait hier et jusqu'à nous saisir dans les larmes, j'aurais dû commettre tous les péchés du monde, l'amour de Dieu est bien au-dessus de cela. Eh bien, cet amour de Dieu commence à nous purifier, à enlever l'humidité par les pleurs de notre péché, de notre blessure. Il nous fait apparaître, comme dans le bois qui est saisi par la flamme, une certaine noirceur. C'est la noirceur aussi de notre limite humaine, de nos orgueils, etc. Et puis, progressivement, la flamme va saisir le bois qui, à un moment donné, va faire que, lorsque nous sommes suffisamment avancés dans cette manifestation du feu, eh bien, le feu va ne faire qu'un avec la bûche. On ne sait plus tellement si nous regardons la flamme ou si nous regardons le bois. Il y a comme une unité entre le bois et la flamme. J'ai bien une unité, c'est-à-dire que on sait qu'à l'origine, il y a une distinction entre le feu et le bois, mais le feu a tellement pris dans le bois que le bois en est transfiguré. On va à ce moment-là non plus regarder le bois pour lui-même, qui n'est peut-être pas beau en tant que bois à l'extérieur. Mais lorsque le bois est saisi par la flamme, eh bien, il y a une transfiguration de ce bois qui devient resplendissant. Et lorsque nous regardons un bois qui prend dans un feu, eh bien, nous en sommes comme émerveillés. Parce que le bois n'est plus lui-même, le bois n'est que feu, comme si l'amour de Dieu, en fin de compte, en nous, n'était que présence de Dieu, qui fait que nous ne sommes plus, nous, à titre d'homme ou de femme, nous sommes hommes et femmes saisis, habités, transfigurés par l'amour de Dieu. Donc c'est un petit peu ça que je voudrais vous faire expérimenter maintenant, pendant le temps qui nous reste, jusqu'à l'Eucharistie. Alors je ne sais pas comment Dieu s'y prend, ne me demandez pas si je vais avoir une pédagogie particulière, je vais laisser plutôt le Saint-Esprit nous aider. Alors peut-être à un moment je vous dirai, fermez les yeux, ouvrez vos mains, mettez la main sur votre cœur, laissez-vous peut-être imprégner par quelques paroles. On va laisser le Saint-Esprit maintenant travailler pour que ce que j'ai essayé modestement d'essayer de vous expliquer ne devienne pas simplement de belles phrases et une théorie, ça n'aurait pas d'intérêt, mais que vous puissiez le ressentir et l'expérimenter dans votre corps et dans votre cœur. Amen.